Ici Campus FM 96.7, nous inaugurons ou nous poursuivons plutôt nos causeries du mercredi après-midi. Ces causeries portent en général sur l'éducation en espace créole et ce soir nous avons donc un invité.
Bonsoir, je m'appelle Zahir Pascal, étudiant en première année d'histoire.
Nous discuterons plus particulièrement sur les problèmes de la hiérarchisation dans les groupes. Alors, le titre exact de notre causerie est « Discours et hiérarchisation des prises de parole dans le cadre de la transmission des savoirs en espace créole ». Voilà. La question qui nous intéresse aujourd'hui porte sur l'une des modalités de la transmission des savoirs en espace créole. Il s'agit de la prise de parole, plus précisément de la hiérarchisation de cette dernière selon les personnes présentes. En effet, autrefois, les prises de parole dans le cadre d'une conversation, dans un groupe où se trouvent des classes d'âge différentes, l'étaient dans un ordre précis. Ce sont essentiellement des postures traditionnelles de transmission des connaissances, disons, à partir entre l'orée du XXe siècle jusqu'aux années 1960.
On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi en 1960 nous sommes en milieu du XXe siècle, il y a beaucoup de changements.
Oui, parce qu'à cette époque, en fait, les historiens s'accordent d'avoir un changement sociétal. Ce changement est dû la plupart du temps au fait que les acteurs sociaux, martiniquais entament un périple. Et ce périple qui jusqu'à présent les a conduits à réaliser sur le territoire des migrations, cette fois, ils partiront vers la France. Et disons qu'une partie des traditions, des savoir-être, subira une sorte de coup d'arrêt. Certes, ceux qui restent sur place continueront à transmettre ces savoir-être, mais par ailleurs, d'autres facteurs entreront en compte.
Donc, ceux qui sont restés sur place, c'est-à-dire les parents qui ont grandi en Martinique, qui ont été élevés dans les années 50-60, qui ont subi entre guillemets l'éducation de cette hiérarchisation, ont-ils réussi à transmettre ce modèle?
La transmission de ce modèle a été un difficile. D'abord parce qu'effectivement, l'éducation, au niveau de l'éducation, même à la maison, il y a eu des modèles venant de l'extérieur, d'autres modèles, notamment par le biais du cinéma, par le biais des médias, et aussi par le biais de la radio. Donc, ces modèles étaient, selon eux, beaucoup plus intéressants que ceux dont ils disposaient chez eux. Et peu à peu, on a cessé d'imposer, par exemple, le silence aux enfants dès qu'ils voulaient parler. Au contraire, on a cherché à leur laisser la parole à n'importe quel moment et n'importe comment.
D'accord. Moi, j'ai grandi ici et mes parents ont suivi le modèle de cette hiérarchisation. Ils m'ont transmis cette éducation. Ce qui fait que, par rapport à d'autres, je remarque, on me considère, surtout les professeurs, m'ont considéré comme bien élevé. Mais, cependant, il y a quelquefois des conflits, parce que dans leur façon de penser, dans leur façon de voir, et la mienne, puisque j'ai subi enfin, aussi l'éducation de la télé, de la radio, des autres médias, qui n'étaient pas forcément présents à leur époque. Donc du coup, parfois, par moment, il y a des conflits parce que forcément, il y a des choses qui ont changé entre-temps dans la façon de voir des choses. Parce que pour eux, déjà ils ne sont pas totalement en accord avec l'éducation de leurs parents, ce qui fait que la façon d'agir qu'ils ont eu avec leurs parents, que leurs parents ont eu envers eux, n'est pas la même avec moi. Mais moi, cependant, quelquefois, je réagis mal. Il y a des choses que j'ai du mal à accepter. Quelquefois venant de mes parents. Et Est-ce que si ce modèle-là, il, si, si, on, quelque, si on remarque quelquefois que les jeunes aujourd'hui manquent de repères et beaucoup de personnes parlent de retour à une éducation assez dure, assez stricte. C'est vrai que est-ce que ces jeunes-là, si on retourne à une éducation avec ces repères qu'on donnait aux enfants et aux adolescents, est-ce que ça résoudrait pas quelques problèmes?
Est-ce que ça résoudrait des problèmes? Bon, il est toujours très difficile de retourner en arrière, ça, il faut être très clair là-dessus. Maintenant, que certains, disons, que certains éléments de cette éducation soient rappelés et qu'ils soient utilisés, notamment à quoi servait en fait la hiérarchisation et comment fonctionnait-elle? La hiérarchisation de la prise de parole, c'était dans un groupe, nous sommes allés d'ailleurs au Marin et nous avons interviewé un certain nombre de personnes, 7 personnes en tout, à la Huvette. Et ces personnes, il y avait donc 3 hommes de plus de 70 ans, il y en avait 2 entre 50 et 60, un jeune d'une trentaine d'années et son fils de 10 ans. Et il y a eu, nous avons assisté donc à un échange. Il y avait un des hommes de 50 ans qui cherchait à expliquer l'art et la manière d'utiliser la chaux dans la construction des maisons en bois et dans la protection donc de tout ce qui concerne le sol pour protéger en fait la maison contre l'invasion d'insectes. Et le jeune de 30 ans a pris la parole rapidement en disant que de toute façon, il existait maintenant des produits commercialisés qui étaient extrêmement tout à fait valables et qui étaient tout à fait intéressants, que ce n'était pas la peine d'aller chercher de la chaux, etc. Et au moment où on s'attendait à une explosion de part et d'autre, le monsieur d'une cinquantaine d'années a imposé brutalement le silence à celui de 30 ans en disant, voilà, je suis l'aîné, j'ai le droit de parler, pour le moment, tu n'as qu'un droit, celui de te taire et d'écouter. Bon, on pouvait s'attendre à vraiment une explosion. Ça ne s'est pas produit. Tout simplement, après, on a discuté, on a essayé de comprendre quels étaient les mécanismes de ces discours et comment cela fonctionnait. Le jeune de 30 ans appartenait donc au quartier et a bien précisé qu'effectivement, il s'est brutalement rappelé qu'il n'avait pas justement à intervenir comme ça. Il devait laisser parler son aîné. Et il l'a dit, il l'a bien précisé aussi qu'en dehors de son quartier, il ne fonctionnait pas comme cela. Donc, on voit bien qu'il y a 2 comportements. Hein. Maintenant, pour répondre à la question posée, est-ce que le retour à cette hiérarchisation peut aider aujourd'hui, disons, à faire qu'il y ait une meilleure compréhension, une meilleure transmission des savoirs entre les personnes âgées et les plus jeunes. Oui, il faudrait effectivement que nous puissions être en mesure d'écouter avec un peu plus de patience. En fait, c'est ce à quoi sert la hiérarchisation, favoriser l'écoute. Et ce sont des modèles qui existent dans d'autres systèmes, dans d'autres communautés, dans les communautés amérindiennes, dans les communautés africaines, dans les communautés asiatiques. Ce sont des modèles, la hiérarchisation par classe d'âge de prise de parole, ce sont des modèles qui existent tout à fait. Nous, chez les créoles, bon, c'est vrai que nous l'avons peu conservé, mais voilà en tout cas ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Voilà.
Et bonjour. Alors, nous sommes à nouveau dans notre débat. Et il m'est venu une question. Quand on a parlé de hiérarchie, de la hiérarchisation, on a bien précisé qu'elle favorisait l'écoute.
Oui.
Et je me demande, enfin, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est que par moment, en fait, le fait qu'il y ait hiérarchisation, que normalement, que normalement, ce système devait favoriser l'écoute. Donc, est-ce que ça n'a pas été le fait qu'il y ait une hiérarchie dans la prise de parole n'a pas été trop utilisé par certaines personnes qui est-ce qu'il n'y a pas eu un abus de, par exemple, enfin, de ce pouvoir, on va dire, hein, du fait que l'aîné doit parler avant et l'autre doit écouter?
Oui, évidemment, bon, rien n'est parfait, hein. Il est certain que rien n'est parfait. Donc, il y avait souvent, quand même, dans certaines familles, les romans antillais se sont souvent fait l'écho de ce genre de désagréments, notamment dans les familles où, par exemple, l'aîné des enfants avait un pouvoir absolu sur les petits frères, les petites sœurs, à tel point que souvent les plus jeunes se retrouvaient dans des situations difficiles. Certes, mais en fait, cette notion de hiérarchisation avait surtout pour but de transmettre les savoirs. Donc, justement, nous avons posé la question lors de notre rencontre avec le groupe à la Uvette et nous leur avons demandé si, en cas d'erreur, parce que l'aîné pouvait très bien parfois dire des choses qui n'étaient pas justes, quelle était l'attitude à suivre à l'époque pour comment faire, hein, pour rectifier ou en tout cas pour présenter son point de vue. Un des hommes là de 70 ans a précisé tout de suite que il y avait des comme un rituel, une manière de faire. Il fallait écouter d'abord, puis dire qu'on était tout à fait bon, qu'on comprenait bien, qu'on était d'accord, mais qu'il y avait quand même une question qu'on voulait bien poser, etc. Et c'était dans ce rituel, cette manière de présenter la question qui pouvait permettre justement à l'aîné de revoir bon, parfois sa position parce que le plus jeune proposait une autre vision. Et c'est vrai que ces systèmes donc d'échange sont très très lents, très longs, et ça nous renvoie au système que nous connaissons dans les communautés africaines, amérindiennes, etc. C'est vrai. Mais ça a l'avantage justement de permettre d'abord à l'aîné de ne pas perdre la face, puisque il est le détenteur en quelque sorte du savoir. Puisque nous sommes à cette époque-là dans un système d'oralité. Et donc, il y a un certain nombre de savoir-faire, de choses que les aînés connaissent et qu'ils peuvent transmettre. Et le fait de ne pas perdre la face, le fait de pouvoir accepter la proposition différente du plus jeune permettait ben, qu'il y ait cet échange et que si, le domaine de connaissance, disons, s'agrandisse, en tout cas, devienne plus complet. Et puis, d'ailleurs, il y avait des termes, hein, il y avait une manière de le dire en créole, grand coûté petit, petit coûté grand. Il le disait souvent.
D'accord.
Donc, c'est un petit peu la réponse que m'a donnée cet homme de 70 ans qui me disait que lui-même, face à un homme de 80 ans, il n'avait pas forcément la parole.
Donc, c'est un système qui est resté assez ancré, en tous les cas, dans les générations passées, qui a peut-être tendance à disparaître maintenant.
Oui, voilà. Il était ancré, qui était bien installé, et qui, aujourd'hui, bon, ben, ma foi, a disparu. En tout cas, ne perdure que en ruralité, ou en tout cas, dans des endroits où, effectivement, la tradition continue. Mais c'est vrai qu'en ville, nous avons essayé de faire une petite enquête, pareil, de voir un peu comment ça se passait. Et bon, non, là, les échanges sont tout à fait informels, hein, c'est-à-dire que la personne âgée parle, le jeune parle, tout le monde parle en même temps et il n'y a pas forcément d'écoute.
Donc il n'y a plus d'écoute, l'écoute a disparu. Et
ouais, elle forcément est plus difficile et la plupart du temps, l'aîné se tait.
Yeah. D'accord.
Voilà. Alors, nous sommes parvenus maintenant au terme de cette petite discussion, cette petite causerie. Nous sommes toujours sur Campus FM 96.7. Nous vous disons bon après-midi et nous vous quittons. Voilà.
Au revoir.
Au revoir.